Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle semaine de l'onde curieuse avec cette petite question. Éolienne, peut-on résumer la question à « sommes-nous pour ou contre ?» Question que l'on pourrait lier également au champ de panneaux photovoltaïques ou plus largement à la question du nucléaire, du développement durable, à la question énergétique, environnementale. Ok pour l'éolien offshore ? Ok pour l'éolien sur nos crêtes ardéchoises, ok aussi pour le démantèlement du nucléaire en France. Une journée complète de débats radiophoniques sur ces questions ne suffirait pas tant il y a de tiroirs et de poupées russes à chaque prise de position et à chaque décision. Alors aujourd'hui dans l'onde curieuse, tenons-nous-en à l'éolien et à l'éolien sur notre territoire, sur nos crêtes, sur nos zones rurales qui ne cessent d'évoluer et qui restent menacées de défiguration, tant les projets industriels regardent avec intérêt notre géographie plus qu'intéressante. Où en sommes-nous aujourd'hui avec l'éolien sur les crêtes Cévenoles ? Nous en parlons dans quelques instants avec Richard Ladé, il est président de l'association ADTC comme avis de tempête Cévenoles. Ce sera après nos infos et la première dose musicale de cette nouvelle semaine. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Quand on veut fermer deux écoles publiques, on organise le tarissement de leurs effectifs d'élèves. C'est en ces mots que la FCPE Ardèche et le syndicat enseignant SNUPP-FSU attaquent la direction des services de l'éducation nationale et la mairie d'Aubenas. SNUIPP et FCPE dénoncent la fermeture souhaitée des écoles maternelles et élémentaires de Baza à Aubenas, à deux pas du collège de Jastres, collège public, et à quelques encablures de la plus grosse école privée d'Aubenas. De là à y voir un lien de cause à effet, les signataires de ce courrier le laissent franchement entendre. Dans les faits, Baza devrait compter pour septembre 2022 de 4 classes, une maternelle, 21 élèves, 3 élémentaires, 72 élèves. Il faut ajouter à ces 4 classes une classe spécifique dite Ulysse pour les enfants en situation de handicap. FCPE et SNUIPP déclarent conjointement que la ville d'Aubenas veut fermer ses deux écoles dès septembre 2023 et que pour cela, la mairie n'inscrira plus d'élèves de petite section. Les familles sont donc priées d'aller voir ailleurs. Tant pis si le grand frère ou la grande sœur est scolarisé dans le quartier. Il faudra se couper en deux pour récupérer les petits à midi et le soir. Enfin, pour verrouiller le tout, toujours selon les signataires, la mairie réorganise la sectorisation scolaire pour être sûre de tarir l'arrivée d'élèves dans les écoles publiques de Baza. L'objectif de la mairie et de la direction de l'éducation nationale poursuivent SNUIPP-FCPE, c'est de faire constater à tous, d'ici peu, que les écoles publiques de Baza n'attirent plus et qu'elles doivent donc fermer. Les deux signataires concluent que les élèves déplacés pour arranger les chiffres et fermés en toute impunité sont les variables d'ajustement du manque de moyens et du manque d'ambition pour l'école publique. Déjà en grève le 24 janvier dernier, les salariés de l'EHPAD de Saint-Cernin, la Bastide du Mont-Vinobre, seront en grève illimitée à partir de ce mercredi. Ils revendiquent de meilleures conditions de travail, une hausse des salaires, la création de postes, la mise en place d'élections professionnelles et l'obtention de moyens pour une meilleure prise en charge des résidents. Malgré la grève très suivie déjà le 24 janvier dernier et les promesses de la direction du groupe Bridge, rien n'a changé, si ce n'est des démissions de personnel usées, signale dans son communiqué la CGT Santé et Action Sociale. Pour venir en soutien au personnel de cet établissement, un rassemblement est donc prévu à nouveau mercredi, ce mercredi à 13h, devant la résidence située à Saint-Cernin. RESF, le réseau Éducation sans frontières, lance un appel urgent pour reloger des familles de sans-papiers. Les appartements qu'ils occupent vont être repris par leurs propriétaires fin mars. Ces familles comptent de 2 à 4 enfants. Si vous pouvez apporter votre aide par quelque moyen qu'il soit, n'hésitez pas à entrer en contact avec RESF via l'adresse mail suivante resfardèche@gmail.com. Géo-histoire des vallées d'Eyrieux et d'Ouvèze aux alentours de l'an 1000. Voilà le thème de la conférence qui sera donnée ce jeudi 10 février aux archives départementales de l'Ardèche à Privas à 18h30. Grâce à une recherche pluridisciplinaire mêlant observation de terrain, recherche dans les archives, études de la toponymie, la conférence va vous inviter à venir découvrir le portrait de ces territoires à travers le temps, les territoires des vallées d'Eyrieux et d'Ouvèze. La conférence sera donnée par Jean-Claude Courcial. Il est enseignant, occitaniste, toponymiste amateur et membre actif des associations Mémoire d'Ardèche et Temps Présent et des Amis du Mézin. La conférence est proposée en partenariat avec l'Université Populaire Centre Ardèche. Et puis vendredi, c'est le CICP de Viviers qui propose une rencontre du patrimoine, comme chaque deuxième vendredi de mois, cette fois direction Bourg-Saint-Andéol, pour une conférence autour de l'hôtel Bonneau de Villevrain, un chantier au cœur de la ville. Ce sera ce vendredi à 18h30 avec Alexandre Mahut, qui est doctorant en histoire de l'art. Vous avez donc rendez-vous au château Pradel, Bourg-Saint-Andéol, c'est en entrée libre, vendredi 18h30. Le lancement de la 8e édition du Festival MEH, ce sera samedi au Teil. Le Festival MEH va présenter la pièce théâtrale, musicale et sociale « La fin du mois, le début du nous », une pièce de Kadour Adadi, alias HK, qui sera également présent aux côtés de Saïd Zarouri et Mathilde Dupuche. C'est au centre socio-culturel Les Clés, place Jean Moulin, au Teil, ce samedi à 19h. Réservation obligatoire pour y participer auprès de MEH au 04 27 52 95 53. Le tarif est de 10 euros. Alcool revient sur scène, le Tungsten Théâtre rejoue cette dérive alcoolisée, poétique, drôle et émouvante. Ce sera ce vendredi 11 février à Solse-sur-Rhône, dans l'espace culturel. Réservation là encore conseillée, 06 87 41 93 64, le tarif de 5 à 10 euros. Les vacances scolaires pour la zone A, celle de Grenoble et donc de l'Ardèche, débutent lundi prochain. De nombreux centres sociaux se mobilisent pour accueillir enfants et ados, mais vous pouvez aussi compter sur la Perle d'eau à la Blachère. La Perle d'eau, la piscine, propose des stages de natation pour les grands débutants dès 4 ans. Stage de 4 jours, du lundi au vendredi, hors mercredi, 10h45, 11h30, tarif pour les 4 séances, 40 euros, information et réservation auprès de la Perle d'eau. Et puis à Langogne, ce sont des stages de cirque qui sont proposés pendant ces vacances d'hiver. L'association culturelle Les Fadarelles organise 2 stages sur 3 jours. Le premier pour les enfants de 3 à 5 ans, ce sera du 21 au 23 février, chaque jour, chaque matin, 9h-10h30, tarif par enfant 50 euros. Et puis un stage pour les 6-11 ans, ce sont les mêmes jours, du 21 au 23 février, mais de 10h30 à 17h. Et le prix par enfant est de 85 euros au programme de l'acrobatie, jonglage, objet d'équilibre et même approche du jeu clownesque. Les places sont aussi limitées. Il faut réserver 04 66 46 17 35. Voilà pour notre info. Dans un instant, nous accueillerons Richard Ladé, président de l'association ADTC. Mais en attendant, eh bien comme prévu, voici notre première dose musicale de la semaine avec un groupe vancéen. Il s'appelle The Tigre et il joue Hey You.
Another day, white and beautiful. You prochain. Suite, suite, suite. Et mon chat. Suite, suite, suite. Et mon chat. Suite, suite, suite. Et mon chat.
The Tigre dans l'onde curieuse sur Fréquence 7. Alors pourquoi The Tigre? Pourquoi ce groupe vancéen? Mais tout simplement parce qu'il fait partie des quatre groupes lauréats du dispositif Court Circuit 2022. Un dispositif porté par l'ASMA Kardèche et cette année également par la salle Le Bourneau. Ces deux acteurs culturels ont retenu quatre groupes, dont The Tigre. Il y aura également Zabalt, Jode et Labo Bicouz. Donc quatre groupes qui vont bénéficier d'un accompagnement artistique tout au long de cette année avec résidence et autres travail sur la, par exemple, communication du groupe, la recherche, enfin voilà, comment se professionnaliser dans la musique avec ce, eh bien tout simplement avec ce dispositif court-circuit. Et on vient d'entendre donc The Tigre, l'un des groupes qui a remporté cette, eh bien, qui est lauréat, on va dire, de ce dispositif qui va rentrer en phase très prochainement avec la SMAC et la salle Le Bourneau. On va à présent accueillir notre invité pour cette journée, c'est Richard Ladé de l'ADTC, La Vie de Tempête Sévenol, c'est le nom de cette association que vous présidez, bonjour.
Bonjour.
On va parler, on va parler de l'éolien, mais plus que l'éolien, on va parler de la menace d'industrialisation éolienne qui pèse toujours sur nos espaces ruraux. Je disais tout à l'heure en ouverture que quand on parle d'éolien, bien ça ouvre plein de tiroirs finalement, parce que ça ouvre l'environnemental, ça ouvre l'énergie, ça ouvre même les finances tout simplement. Cette menace est encore bien réelle. Votre association, ADTC, le rappelle avec une lettre ouverte que vous avez envoyée aux élus de notre secteur. On va dire le secteur Sévenol autour de Prades, autour de Lantillères, autour même un peu plus en bas, un peu plus au sud encore.
Grosso modo, notre secteur, il fait à peu près le tour du Tanargue, c'est-à-dire de la Souche au nord, Jaugeac, et puis jusqu'à la périphérie d'Aubenas, Mercœur, Ayon, puis en repartant de l'autre côté jusque vers Jonas, Rocle, la boule, voilà.
Et alors, vous avez du neuf, vous avez du nouveau, c'est-à-dire que depuis un certain temps, l'éolien en Ardèche, on avait l'impression que ça soufflait plus beaucoup. Et puis finalement, il y a des études qui se font un peu dans notre dos, on peut dire.
Eh bien oui, donc notre situation locale est rattachée au contexte national. Alors jusqu'ici, les Ardéchois ont pu voir que l'éolien était concentré, le développement éolien était concentré surtout sur les hauteurs, la montagne ardéchoise, etc. Et par ailleurs, effectivement, il y a des objectifs officiels toujours très ambitieux pour multiplier le nombre d'éoliennes dans l'ensemble de nos régions. Et à ce titre-là, donc, le secteur dont nous venons de parler, les crêtes Cévenol, effectivement, du sud Ardèche, on est vraiment bien en ligne de mire parce que...
ça souffle.
On a du vent et on a des régions qui, par endroits, sont relativement peu peuplées et donc où la contestation des projets éoliens est plus difficile à organiser que dans d'autres endroits. Voilà. Donc, nous, ce qui nous semble important, c'est effectivement de relancer un peu l'alerte générale sur ce sujet-là. Parce que, donc, lorsqu'on regarde les scénarios d'implantation des éoliennes tels qu'ils sont, tels que le gouvernement essaie de les mettre en place aujourd'hui, eh bien, nous sommes très, très visés. Et nous considérons qu'il faut vraiment qu'il y ait un mouvement de contestation fort, quelque chose de fort qui se passe sur le territoire, si on veut essayer de faire obstacle à ça.
Il y a déjà une dizaine d'années, il y avait des projets qui avaient voulu se mettre en place, pour ceux qui ne le savent pas, sur ce secteur, justement, Prades, enfin toutes les crêtes autour. Là.
Voilà, donc ça fait très longtemps que les crêtes sont visées par des projets. Alors les projets, ils existent, hein, ils sont dans les tiroirs, ils ne sont pas forcément déclarés, mais ils sont là, prêts à sortir des tiroirs de la part des investisseurs, des promoteurs éoliens. Et donc, en gros, c'est un peu un bras de fer entre la population locale qui émet ses objections et donc cet appétit d'investissement, clairement.
Alors pourtant, ces crêtes, elles appartiennent bien à quelqu'un. Soit elles sont publiques, soit les terrains sont publics, c'est-à-dire communaux, souvent. Soit ils sont à des propriétaires privés. Comment fait-on si on est visé ? Si je suis propriétaire d'un terrain et qu'on vient me voir ou pas, comment ça va se passer ? Généralement.
Ah ben, donc effectivement, nous essayons de diffuser le maximum d'informations auprès de la population locale pour que les gens qui pourraient être effectivement contactés par des promoteurs éoliens parce qu'ils sont propriétaires de parcelles en Crète, par exemple, se précipitent pas dans des tractations avec eux et essaient de prendre en compte un peu l'ensemble des avis sur le sujet. Sachant que déjà il y a 10 ans, effectivement, il y avait une très forte opposition locale à des projets situés sur les crêtes au-dessus de Jaujac, puis après au-dessus de Prunay. Tout ça, ça s'inscrit dans le rejet assez général de l'éolien au sein de la population, si on regarde la France entière. Et c'est justement parce qu'il y a ce rejet dans les régions qui sont déjà, on va dire, très équipées d'éoliennes, que le gouvernement essaie, de façon plus ou moins discrète, de voir où c'est qu'on pourrait caser de nouvelles éoliennes ailleurs dans le pays, là où il n'y en a pas trop actuellement.
Et là où il y a très peu d'habitants, justement, souvent dans les zones rurales, du coup.
En commençant, effectivement, par les zones qui sont les moins à même d'objecter fortement donc, à ces installations. Donc... c'est ça qui nous amène à nous intéresser au contexte un peu national. Et là, on voit quelque chose de tout à fait stupéfiant de se mettre en place parce que donc le processus de rejet est désormais très bien établi dans tous les secteurs de la population. Et on a du mal presque à rendre compte du fait que l'éolien qui a été vraiment très populaire et qui le reste encore dans une fraction importante de la population fasse l'objet d'un tel rejet ailleurs. Et donc je voudrais pas qu'on consacre là le peu de temps qu'on a ensemble à refaire l'argumentaire à charge contre l'éolien. Il y a des tas de gens qui font ça beaucoup mieux que moi. On peut se référer notamment, il y a plein de documentaires, on peut citer le plus récent, le plus complet là, qui s'appelle Éolienne du rêve à la réalité, qui est disponible sur YouTube. Dans 2 jours, il y a un livre qui sort intitulé L'écologie bananière. L'auteur est Pierre Dumont, et donc qui est très très éloquent quant à la dénonciation donc de tous les travers de cette filière énergétique.
Qui est un élu qui connaît ça depuis des années.
Des gens qui vivent un élu local qui vit ça dans son département, l'Indre, depuis des années, et qui se fait l'écho un peu de toutes les contestations qui émergent sur le terrain. Et
mais vous le dites d'ailleurs dans cette lettre ouverte, hein, que l'acceptabilité sociale de l'éolien industriel dans les territoires ruraux aujourd'hui, c'est zéro. On n'en veut pas.
C'est ça. Bah, en gros, il y a un rejet massif. Et donc, pour rendre compte de ce rejet, en fait, moi je voulais parler du concept de dystopie, si je peux, pendant deux secondes. Alors, dystopie...
un peu plus que deux, d'ailleurs.
essayons pas trop être indigeste à l'heure du repas. Donc, c'est pas un mot que j'ai inventé, c'est un mot qui existe. Et c'est très facile à comprendre, en fait, puisque c'est un mot qui est construit, en fait, par contre-pied au concept d'utopie. Le préfixe 10 DYS fonctionne de la même façon que lorsqu'on contraste symétrique et dissymétrique, ou fonctionnement et dysfonctionnement. Et donc, en gros, une dystopie, c'est un peu une utopie qui a mal tourné, ou c'est le contraire d'une utopie. C'est-à-dire, une utopie, c'est quelque chose d'assez merveilleux et fantastique, mais qui existe nulle part. Et une dystopie, c'est une situation qui est assez problématique, voire désastreuse, et qui s'est infiltrée partout. Et je trouve que c'est un concept intéressant parce que bon, ça permet de se dégager d'un certain nombre de terminologies et d'éléments de langage qui sont assez clivants et qui font que les gens n'arrivent pas à se comprendre sur le sujet.
Les antis, quoi.
Bah oui, voilà, les pros. On est accusés d'être pro ceci ou anti cela. Bref, on l'est pas. On est là pour préserver l'environnement et le cadre de vie d'un certain secteur qui nous semble particulièrement intéressant sur le plan de son patrimoine naturel, simplement. Bon. Donc, l'utopie et la dystopie, ça nous semble être peut-être quelque chose de plus intéressant. Il suffit de prendre exemple. Alors, donc, c'est ça que l'éolien est en train de devenir, en fait, au niveau général. Si on prend un autre exemple pour qu'on comprenne bien donc, la dynamique qui se joue, qui est à l'œuvre ici. Il y a un excellent petit livre qu'on peut recommander d'un auteur qui s'appelle Olivier Rey, R-E-Y, qui s'appelle « Une question de taille ». Et qui aborde plein de sujets très intéressants, de façon tout à fait lisible, donc je recommande à tout le monde. Et en fait, le livre commence par l'histoire d'une utopie devenue dystopie, et qui est celle des grands ensembles. Les grands ensembles, donc, dans lesquels on loge les gens, là, aujourd'hui, dans nos banlieues, ça a commencé comme une utopie, après la Deuxième Guerre mondiale. Le premier grand ensemble a été construit dans une ville américaine, et ouvert en fanfare en 1955, et c'était, à l'époque, considéré comme un progrès absolu.
La solution.
La solution aux problèmes de logement, à plein de choses. Et donc, on s'est lancé là-dedans à fond pendant une vingtaine d'années. Et au bout d'une vingtaine d'années, c'est devenu une dystopie. C'est-à-dire que tout le monde s'est rendu compte que c'est pas ça qu'il fallait faire. Et donc, on a mis fin aux grands ensembles. En 1973, donc à peine 20 ans après... le gouvernement français a interdit la construction de grands ensembles. On est parti sur autre chose. On a essayé de résoudre les mêmes problèmes, mais d'une autre façon. Et de fait, le premier grand ensemble qui avait été construit, il a commencé à être démoli 18 ans après avoir été construit. Oui. Donc on est passé de l'utopie à la dystopie en moins d'une vingtaine d'années. Et donc ça semble assez éclairant parce que on se dit que en fait c'est peut-être ça qui est en train de se passer aussi. Pour l'utopie qu'a été l'éolien. Et alors là où il y a crise et tension actuellement, c'est que une dystopie, bon, c'est quelque chose qui s'impose de façon assez brutale aux gens, mais l'utopie, c'est quelque chose qui a la vie longue aussi. Ouais. Et donc nous sommes dans un cadre social général en France où l'éolien est devenu une dystopie complète pour à peu près la moitié du pays, mais c'est encore une utopie pour une bonne partie de la population. Notamment celle qui est le moins exposée, en fait, au monde réel de la vie autour des éoliennes. Et donc, c'est ça qui crée la situation, y compris au niveau politique, extrêmement tendue actuellement, et par laquelle, donc, notre cas de figure local, en fait, est un peu, en quelque sorte, un enjeu qui va faire basculer toute l'affaire, soit d'un côté, soit de l'autre.
Oui, parce qu'on voit aujourd'hui, dans les documents que vous m'avez fait passer, justement, avant cette émission, que, par exemple, la région, aujourd'hui, attaque, par exemple, le préfet, le représentant de l'État, sur des dossiers d'éolien. C'est-à-dire que l'État veut toujours imposer, puisqu'il a ses plans, alors on ne va pas rentrer dans les détails, mais des plans souvent qui viennent d'ailleurs de l'Europe. On demande à l'État français d'être dans les clous. Donc l'État français met en place des plans sans tenir compte des retombées locales.
C'est ça, donc actuellement, effectivement... La
Chez moi qu'on connaît bien dans d'autres choses, hein, pas du coup dans l'Éolien.
La dystopie a commencé, alors au début c'était les gens qui habitaient autour, les riverains. Alors on les a disqualifiés, on a dit c'est des râleurs, ils sont pas contents, tant pis pour eux en gros. Après de là, on est passé maintenant aux communes, c'est-à-dire il y a un collectif de 500 communes en France, 500 et plus, qui demandent un arrêt complet des installations d'éoliennes. Ils veulent pas que ça continue à proliférer de la façon dont ça fonctionne actuellement, de façon très verticale, effectivement, comme vous le dites. Et après, c'est les conseils départementaux. Donc on a au moins une demi-douzaine de départements qui réclament un moratoire complet. Et maintenant, ça arrive, effectivement, au niveau des régions. Donc, alors la région Hauts-de-France, là où il y en a le plus, on a vu depuis longtemps son président, monsieur... Bertrand s'exprimait très ouvertement contre et dire ça suffit. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes prend aussi un certain nombre de mesures, notamment effectivement par rapport à certains projets particulièrement agressifs dans l'Allier, pour essayer de contrer ça. Et vu que là on est maintenant très près des élections présidentielles, le problème, ou disons le schisme, arrive à éclater maintenant, y compris au niveau donc de la présidentielle, puisque certains candidats ou des personnalités haut placées sont prêtes à effectivement promettre un moratoire éolien, c'est-à-dire l'arrêt des installations. Et alors,
ce qui doit faire peur aux investisseurs.
Alors ça fait très très peur aux investisseurs. Pourquoi ? Parce que autant arrêter une filière comme le nucléaire, par exemple, ça serait très très compliqué de faire ça à court terme, vu la complexité technique et le fait qu'on en dépend quand même encore de façon très importante. Autant arrêter l'éolien, techniquement, ça se fait très facilement. Pourquoi ? Parce que l'éolien, on est déjà équipé pour s'en passer. Et pourquoi on est obligé ? Et pourquoi on est équipé pour s'en passer ? Parce que déjà, on s'en passe. Et on s'en passe quand il n'y a pas de vent.
Il y a eu des journées, là, des moments très marquants. Là même, il y a quelque temps encore, en janvier, hein, fin janvier, où la production éolienne était très basse.
Voilà, toutes les saisons, à tout moment, il peut y avoir une situation sur l'ensemble de la France, et même, y compris sur l'ensemble du continent européen, au-dessus de laquelle il n'y a pas de vent. Et donc, l'éolien, dans ces cas-là, on s'en passe. Donc ça veut dire qu'on a déjà des infrastructures en place pour pallier l'insuffisance de l'éolien. Alors, justement, c'est là que le débat devient d'autant plus tendu. C'est qu'aujourd'hui, si on veut éviter, d'augmenter la part d'énergie fossile dans le mix énergétique français, dans le mix de production électrique, on a beaucoup, beaucoup de mal à faire ça si on investit lourdement dans l'éolien, parce que le système électrique qui est en place actuellement, celui donc qui est une combinaison essentiellement de nucléaire et d'hydraulique, il n'est pas à même d'absorber les variations brutales de l'éolien telles qu'elles se présentent au titre de la météo qu'on constate. Alors, encore très récemment, le 9 janvier, en moins de 24 heures, la production éolienne a chuté de l'équivalent de 9 ou 10 centrales réacteurs nucléaires. Donc, dans des proportions vertigineuses. Alors, après, ça peut réaugmenter, ça peut repartir. Ça marche dans les deux sens. Hein. On en convient parfaitement.
On les arrête même quand elles sont trop chargées.
Voilà, la difficulté, c'est d'essayer de construire un système électrique qui soit apte à encaisser ce genre de variation brutale. Et aujourd'hui, on ne sait pas faire. Autrement, le moins pire qu'on sait faire, c'est de mettre des centrales au gaz. Mais les centrales au gaz, aujourd'hui, en France, ça crée des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est complètement contraire au principe même. Je veux dire, l'utopie des éoliennes, c'était de sauver la planète, c'était pas de produire des... Or, on se rend compte que, indirectement, on est en train de créer une situation qui peut conduire à une augmentation des émissions carbone du secteur électrique.
Du fait de la quantité d'absence de vent, c'est le gaz, ce sont notamment les centrales gaz voilà. qui prennent le relais.
Voilà. Et donc l'Allemagne, qui s'est lancée dans le programme pratiquement de tout éolien, puisque ils sont en train de fermer leur dernière centrale, leur dernier réacteur nucléaire. Entre-temps, ils ont pallié par du charbon, mais le charbon, ça pollue. Donc, ils ont un plan pour sortir du charbon. Mais leur plan pour sortir du charbon, c'est un plan pour rentrer dans le gaz. Donc, ils vont être dépendants à l'horizon là, de 2050. Ils vont être très dépendants du gaz. Une certaine partie sera du gaz renouvelable, du biogaz. Donc très bien. Ouais. Mais une autre partie sera du gaz naturel qui est émetteur de gaz à effet de serre. Et ça sera en plus du gaz russe. Donc, ça crée une situation géopolitique un petit peu délicate, que les Allemands ont du mal à faire accepter, ou à faire adopter, en tout cas par l'ensemble de la communauté européenne.
Alors pour revenir sur nos crêtes, Sévenol, qu'est-ce qui peut donner l'alerte, si ce n'est votre association, quand des projets viendraient, si quand même des projets viendraient à sortir, malgré tout ça, malgré cette dystopie? Alors... qu'est-ce qui peut donner l'alerte justement aux citoyens lambda en se disant « mais qu'est-ce qui se passe, ça bouge beaucoup là, par chez nous en ce moment
?» Alors, bon, je ne veux pas être pessimiste, mais pour arriver à arrêter ce rouleau compresseur là, qui s'approche de nous, à nouveau, il faut vraiment quelque chose de fort. Tout le monde se souvient, en 2011, on a eu les gaz de schiste. On est arrivé à arrêter ça parce qu'on a mis 10 000 personnes dans la rue, enfin même sur la nationale à Villeneuve-de-Berre, la route était bloquée, le préfet a dit il faut arrêter ça, et de fait là on a eu gain de cause. La difficulté avec l'éolien, c'est que ça s'introduit de façon plus discrète et sournoise, comme on l'a dit, c'est-à-dire ce qu'il faut s'attendre, c'est que sur nos pentes là, sur nos crêtes sévenoles, ça commencera avec un petit projet de 2 ou 3 ou 3 ou 4 qui se voit pas trop, où il y a pas trop d'habitations à côté, ou ceci ou cela. Et ça sera le pied dans la porte. C'est-à-dire, après les 2 ou 3 ou les 3 ou 4, on a vu ce qui s'est passé sur le plateau. Le plateau, c'est pareil, ça a commencé par 6 ou 7, après 14 ici, maintenant il y a 64, il y en a encore une 30, 20 ou 40 en projet. Bref, voilà. Donc, on se dirige vers une industrialisation complète des espaces naturels. Et au titre de certains scénarios qui ne sont pas reniés par les partis en place et ceux qui les contestent, pour une bonne part, au titre de certains de ces scénarios, il faut envisager que d'ici 15-20 ans, on ait 1000 éoliennes en Ardèche. C'est pas du tout quelque chose de fictif ou de virtuel ou d'irréaliste. Il y a des gens qui sont partis dans quelque chose comme ça.
Mmh. Sauf à donc justement pêcher ce pied de se mettre dans la porte et de tenir cette porte fermée par la mobilisation.
D'où notre démarche auprès des élus, c'est-à-dire que les élus, c'est les premiers à pouvoir dire... Alors, s'il y a des communes qui sont pour installer des éoliennes chez elles, ça serait bien qu'elles le disent, parce qu'au moins, les gens qui viennent s'installer, ils le feraient en connaissance de cause. Et puis, celles qui sont contre, ça serait bien qu'elles le disent aussi, parce que les gens qui sont rien et qui disent rien... vu la tendance lourde et l'effet d'inertie qu'il y a actuellement autour de la prolifération éolienne, c'est comme s'ils étaient pour, en fait. Donc il faut vraiment arriver à s'affirmer. Donc il y a des communes qui l'ont fait. Il y a la commune de La Boule il y a un an ou deux, la commune de Saint-Vincent-de-Durfort l'année dernière, on fait des délibérations disant qu'elle ne voulait pas d'éolienne chez elle, point. Et donc ça, au moins, ça pose un peu quelque chose. Alors les maires des communes... Ils n'ont aucun pouvoir décisif là-dessus. Et puis
ça tourne, de 6 ans à 6 ans, des fois ça tourne.
mais c'est déjà quelque chose. Il y a ce collectif de 500 maires et plus en France. Donc s'inscrire à ce collectif. Il y a des communes sans éoliennes, comme il y a eu des communes sans taffetas. Les gens mettaient un panneau à l'entrée de la commune. On l'a vu dans les Cévennes, commune hors taffetas. Il y a maintenant des communes qui placent le panonceau « commune sans éolienne ». Donc déjà, commencer à annoncer la couleur de ce côté-là.
Mmh. On sait que sur le terrain, vous le rappelez dans ce courrier, quasiment tous les projets ont un impact, vous dites, clivant, très dommageable, je vais y arriver, sur la cohésion sociale des habitants. On le sait combien c'est toujours très, du coup, tendu entre... ce qu'on va dire les pros et les anti, ou ceux qui sont au milieu et qui ne savent pas. C'est vrai que c'est vraiment souvent des tensions qui se mettent en place quand arrivent des projets comme cela.
C'est certainement une motivation pour nous pour essayer de devancer un peu la situation où il y aurait des projets déclarés ouvertement dans telle ou telle commune. Parce qu'effectivement, nous avons vécu ça il y a 10 ans. Énormément de tensions au sein des villages et d'un village à l'autre, parce qu'une crête, bien sûr, très souvent, il y a une commune d'un côté et une commune de l'autre. Les impacts sont dissymétriques. Et donc, ça nous semble important d'essayer d'éviter une situation de crise sociale qui met après des années à se résorber.
Est-ce que les communautés de communes n'ont pas justement un rôle à jouer là ?
Pareil, certaines...
Plus que peut-être, parce que quand on parle justement d'une crête, on dit des deux côtés, on l'a...
Alors là, les communautés de communes, pareil, on les inclut dans nos mailings. Après, certaines se sont prononcées. Déjà, la communauté de communes Baume-Droby a pris une délibération l'année dernière qui refusait de favoriser l'implantation d'une vingtaine d'éoliennes là, sur le massif du Prato-Béra. Mmh. Donc elles peuvent faire des choses aussi. Et à nouveau, bah, ça peut petit à petit essayer de construire un peu la résistance et éviter qu'une prolifération se développe lentement dans notre territoire, simplement parce que on s'est laissé faire et on n'a rien dit, quoi.
Il n'y a pas beaucoup de gains, hein, je crois, finalement, pour les territoires. Même financier, c'est pas... est-ce que ça vaut la peine par rapport au cadre de vie? C'est toujours là le débat.
Il faut arriver à prendre... il faut arriver à peser le pour et le contre. Ouais. Écoutez, après, il y a une question... Si l'objectif, c'est le gain, on peut effectivement... L'Ardèche a plein de ressources qui peuvent en faire l'usine électrique de tout le pays. Si c'est ça qu'on veut, oui. On pourrait faire ça.
C'est vrai.
Bon, nous, notre association, Avitempête-Sévenol, on est là pour la préservation de l'environnement et du cadre de vie sur un certain secteur. Nous considérons que ça n'est pas souhaitable que tout le pays soit disponible pour des activités de production industrielle. Mmh. Alors, là, il se trouve que c'est l'éolien. Mais l'exploitation forestière industrielle, on n'est pas d'accord que ça puisse se passer partout dans le pays. Donc c'est aussi une problématique sur laquelle on intervient. Les champs photovoltaïques, s'ils sont installés sur le parking du supermarché, parfait. Si on défriche des hectares entiers pour mettre des panneaux photovoltaïques, comme on est en train de le faire déjà dans la forêt landaise, c'est déjà quelque chose en cours, on est contre. Donc tout ce qui veut dire davantage d'artificialisation, il doit exister des territoires qui sont à l'abri de ça. C'est ça que nous disons. Et ces territoires-là, typiquement, nous les reconnaissons dans les parcs naturels régionaux. Pour le commun des mortels, c'est un peu ça, un PNR. Mm. Donc par ailleurs, le modèle que nous préconisons, c'est pas un modèle non plus de muséification de la nature, c'est-à-dire on enlève tout le monde et puis on réserve ça donc à la biodiversité. Il faut qu'il y ait des endroits où effectivement la nature est livrée à elle-même, mais il faut nous militons pour qu'il y ait des endroits qui soient habités, mais à nouveau dans lesquels on s'abstient d'activités de production industrielle.
Très bien, écoutez, on peut prendre connaissance depuis le site internet, hein, je crois, adtc07.org, ces informations.
Ça, c'est l'adresse mail, contact@adtc07.org. Nos publications sont sur un site internet partagé qui s'appelle Perspective écologique. On n'a pas les moyens d'avoir un site internet à nous, donc on partage avec d'autres organisations. Donc perspectiveécologique.com.
Tout ça au pluriel.
Tout ça au pluriel. Et sur ce site-là, il y a un petit champ qui s'appelle « Description » et qui sert de filtre. C'est-à-dire, si on tape « ADTC », ça sélectionne les documents ADTC et ça fait abstraction des autres documents d'organisations qui partagent le site avec nous.
Voilà, comme vous l'avez dit, comme c'est une association et comme vous n'avez pas des moyens faramineux, on peut toujours soutenir ADTC.
Ah oui, bien sûr. Alors l'association n'est pas ouverte seulement... aux gens qui habitent dans le territoire sur lequel nous intervenons. Il faut faire le distinguo entre notre périmètre statutaire où nous pouvons agir en justice et le fait que, par ailleurs, nous sommes une organisation ouverte à tout le monde. Nous avons plein d'adhérents qui sont des gens qui sont amoureux de Cévennes et qui ne sont pas du tout dans la région et qui nous soutiennent parce que, quand ils viennent ici, ils n'ont pas envie de se retrouver en face d'un territoire à nouveau amoché par des activités industrielles. Et on peut peut-être signaler, pour finir, alors que nous faisons une réunion le 5 mars, samedi 5 mars à Prades, après-midi, donc il y a un mailing qui est en cours à ce sujet, et qui sera une réunion de mobilisation locale, c'est-à-dire voir comment nous pouvons construire, donc mettre le sujet un peu plus à l'ordre du jour, notamment de nos élus, avant qu'il ne soit trop tard.
Le 5 mars, c'est un vendredi ?
Samedi 5 mars, après-midi, à Prades.
Très bien. Merci Richard Ladé.
Merci à vous
Merci
pour l'invitation.
Merci pour votre intervention pour l'association Avis de Tempête Sévenol. Voilà, l'onde curieuse se termine en un coup de vent, vite. À 13h, il y aura les jardins suspendus à entendre sur ces ondes. Si vous êtes au moment du direct, c'est-à-dire à 12h, passé d'une bonne quarantaine de minutes, sans quoi ce sera Solidaire d'abord que vous retrouverez à 18h si vous nous écoutez lors de la rediffusion de cette onde curieuse et qu'il est déjà 17h, passé d'une bonne quarantaine de minutes. Entre deux, il y a le Telex, ne l'oubliez pas, 15h, Telex sur lequel, je rappelle, chacun peut laisser ses messages au 04 75 93 30 25, déposer votre message pour votre manifestation ou pour toute autre envie. Et puis en soirée, on retrouvera Renaud Séchant sur notre antenne pour un live de 2h. Et oui, il y a déjà 40 ans, l'Hexagone Live de Didier Steff repropose ce soir, si vous ne l'avez pas entendu il y a 2 semaines, le live de Renaud de 1981-82, je crois, dans 80 ou 82, voilà, enfin c'était il y a 40 ans, ça ne va pas nous rajeunir, mais voilà, c'est ce soir, c'est à 21h et jusqu'à 23h. C'est tout, nous, on se retrouve demain et nous accueillerons l'association Culture, avec un S, elle nous vient de Balazuc, pour rappeler ses activités et ce qu'elle va proposer dans les jours à venir. Bye bye.